Société avec Nick Payne.
Bonjour, très heureux d'être au microphone à nouveau cet avant-midi pour une autre édition de Société, une émission bien chargée aujourd'hui puisque nous recevons Sylvain Gaudreau, candidat à la direction du Parti québécois, qui est d'ailleurs déjà installé en studio avec nous, mais on va discuter là, de sa candidature et de son parcours politique et de ses propositions aussi, sans doute, enfin, j'espère, dans quelques instants. Mais d'abord, faisons un peu d'actualité avec notre ami Frédéric Bérard, qui est au bout du fil. Bonjour, Frédéric Bérard.
Salut, Nick Payne.
Frédéric Bérard, aujourd'hui, là, faut qu'on parle encore un peu de ce qu'on appelle la crise ferroviaire, ou en tout cas la crise des relations entre les peuples autochtones et le pouvoir canadien, pour le dire de façon plus large comme ça. On a appris hier qu'une entente de principe avait été trouvée là, entre les ministres du gouvernement Trudeau et les chefs héréditaires du peuple Wet'suwet'en. On comprend que cette... Alors, on sait pas grand-chose hein, là-dessus, puis c'est un peu bizarre parce que on sait que les travaux du pipeline de Coastal GasLink, du gazoduc, reprennent. Il n'y a pas eu d'entente là-dessus, mais on se serait entendu sur la question des droits ancestraux, des droits territoriaux. Puis on voulait voir avec vous, qui connaissez si bien le Canada, sa constitution, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis je commence par passer par les Mohawks. On a entendu cette semaine quelqu'un, un Mohawk, à la télévision, sur la barricade probablement à Kanawake, qui disait « Vous devez comprendre que ici, c'est pas le Canada, c'est pas le Québec, c'est Kanawake. » Alors, à quel point... Alors là, on parle d'une réserve, évidemment. Là, mais quand on parle de droits ancestraux, territoriaux ou encore d'une réserve, à quel point là, on n'est plus au Québec puis au Canada? Est-ce que c'est vrai de dire des choses comme ça?
Ben non, c'est pas tout à fait vrai, mais ceci dit, le droit autochtone, particulièrement en matière de droit ancestral, est un droit qui est excessivement complexe et excessivement délicat. Les tribunaux, la Cour suprême du Canada a toujours marché sur des œufs. Hein. Lorsqu'il est question de ça, on sait que ces droits-là ont été reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés en 82, mais c'était des droits qui existaient de manière par l'entremise de la common law, en quelque sorte. Donc, ça pour répondre, je veux juste commencer peut-être, Nick, avec ce qui se passe en ce moment par rapport à l'entente. Effectivement, on n'en sait pas plus, mais il y a une dimension qui est possible, hein, qui soit actuellement discutée ou qui a fait l'objet de l'entente. C'est ce que la Cour suprême du Canada avait décidé en 97 lorsqu'elle avait dit « Vous êtes effectivement en territoire non cédé », qui est le terme politiquement correct pour dire « volé », entre toi et moi. Là. Mm-hmm. Et donc, de ce fait-là, la Cour avait reconnu aussi l'espèce de souveraineté des chefs héréditaires sur ce territoire-là.
Alors, le principe des droits territoriaux et les chefs héréditaires comme interlocuteurs privilégiés ou reconnus dans ce dossier-là. C'est
voilà,
ça.
Hein? Exactement, vous avez compris. Elle a ajouté quelque chose d'intéressant, pour pas dire un peu curieux, parce qu'elle dit « ben, ce sera à vous là, de faire valoir l'étendue de ce territoire-là, cela dit. » Alors, c'est quand même assez paradoxal. Là. On a une décision qui nous dit...
Ce qui n'a pas été fait hein, depuis.
Ben voilà, exactement. Donc, à mon sens, et là, peut-être que je me trompe, j'ai pas d'informations privilégiées là-dessus, là, c'est vraiment juste une hypothèse, mais à mon sens, c'est possiblement, sinon probablement là-dessus que la discussion a dû avoir lieu ou aurait dû avoir lieu. C'est-à-dire, quelle est l'étendue de ce territoire-là? Puis qu'est-ce qui en sera pour le futur? Est-ce qu'il y aura une compensation qui va être versée, ça, probablement? Mais peut-être qu'on a finalement mis un point à ce qui a été lancé comme question par la Cour suprême en 97.
Bonne question. Vous ne trouvez pas ça curieux en même temps qu'on dise avoir trouvé une entente là-dessus, mais que la question du gazoduc ne semble pas réglée du tout? C'est pas un peu étonnant?
Ben là, évidemment, on spécule, mais je suis assez d'accord. Je pense pas que la compagnie en question va déboulonner son pipeline, puis va pacter ses petits puis retourner chez elle. Donc, probablement que ça, c'est un fait acquis. Maintenant, comment on gère la suite de la chose, ça, franchement, on va savoir, il y a peut-être des manières de compenser. Ou
des compensations, des négociations, oui,
ouais,
voilà.
Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire-là, Nick, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est pas tant c'est pas tant l'espèce de conclusion qui reste à ressembler à un nouveau plaster sur la plaie, mais c'est beaucoup plus le problème névralgique qui est à la base actuellement des manifestations à travers le pays. Parce qu'on sait qu'à peu près toutes les nations autochtones, en tout cas, du moins une partie appréciable, ont appuyé les revendications en question. Le malaise est beaucoup plus grand que simplement un territoire non cédé qui est quand même, on parle d'une nation dans ce cas-ci qui est quand même assez minimaliste en termes de nombre. C'est très, très peu, contrairement à d'autres nations autochtones. Donc, on voit cette espèce de fracture sociale-là qui a, franchement, disons-le, à peu près toujours existé au Canada, qu'on essaie de, comment je dirais, de calmer ici et là avec un chèque à gauche, un chèque à droite. Mais la question, tant qu'à moi, puis l'ONU le signale à chaque rapport, la question, c'est comment régler une fois pour toutes, en fait, peut-être pas une fois pour toutes, mais comment améliorer les rapports avec les Autochtones et améliorer la gestion des enjeux autochtones, parce que c'est clairement le point faible du Canada en matière de droits humains et de loin. Là,
mais là je m'adresse aux juristes et à celui qui connaît bien la Constitution et le Canada. C'était pour ça que je vous présentais comme ça tout à l'heure. Quand on parle de territoire, c'est tout de même anxiogène pour le Canadien, le Québécois moyen. Il y a le spectre de la partition qui est derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le territoire non cédé, à partir du moment où on le redonne, entre guillemets? Est-ce que cette portion-là du territoire sort du Québec ou du Canada? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ben, territoire non cédé, tant qu'à moi, c'est un territoire.
Ah, je pense qu'on vient de céder Frédéric Bérard, oui, on a une barricade électronique. Pendant que Daniel Fortin essaie de le rejoindre à nouveau, puisque j'ai Sylvain Gaudreau devant moi, je vais le prendre au... Est-ce que vous avez du son sur votre microphone? Ah ben non, vous êtes même pas là. Oui, ah, on est déjà de retour en ligne avec Frédéric Bérard. Bon, ben, M. Gaudreau, je vous ai parler pour rien.
Il y a un autre appel qui est rentré malgré moi.
OK. C'est les Wet'suwet'en qui vous appelaient, hein, c'est ça?
Pardon?
C'est les Wet'suwet'en qui vous appelaient?
Les Wet'suwet'en qui m'appelaient pour me dire bravo. Non, mais ça, ça part. Puis je comprends l'espèce de risque ou l'espèce d'appréhension par rapport à la partition.
Oui, c'est encore le grand chef qui vous appelle, Frédéric Bérard. On vous attend encore deux secondes. Bon, vous n'êtes pas là. Daniel Fortin, fais-nous donc un lien, puis on va jaser avec Sylvain Gaudreau dans une seconde. Chers amis, nous sommes de retour dans un instant. De retour à Société. Alors, comme disait Sylvain Gaudreau, ce sont les joies du direct. Vous avez déjà entendu cette expression, chers auditeurs, pardon de ce léger contretemps, mais toujours est-il qu'on élucidera la question des territoires non cédés très, très prochainement avec Frédéric Bérard, soyez-en sûrs. De toute façon, pour le moment, on n'en sait pas plus là, sur l'entente de principe survenue entre Ottawa et les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en. Passons à notre sujet principal d'aujourd'hui, la course à la chefferie du Parti québécois, bien sûr, mais la candidature de Sylvain Gaudreau, qui est de la grande visite de l'Assemblée nationale, donc en studio, député de Jonquière. Bonjour, M. Gaudreau.
Oui, bonjour, M. Payne. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Et à l'Assemblée nationale, on est en semaine de relâche cette semaine. Donc, ça permet d'être dans nos circonscriptions ou d'être ailleurs sur le terrain au Québec.
Ça tombe bien quand on est en course à la chefferie.
C'est clair qu'on en profite pour prendre ce temps aussi pour aller à la rencontre des membres du Parti québécois.
Revenons un peu, avant d'entrer dans les sujets plus... dans le contenu, si on veut. Parlons de vous un instant, parce qu'on vous connaît d'une certaine façon mieux que les autres candidats, en tout cas du point de vue politique, puisque vous êtes un élu à l'Assemblée nationale, donc du député de Jonquière pour le Parti québécois depuis 2007, je crois.
Ça va faire 13 ans là, dans quelques semaines.
Ben voilà, mais dites-moi un peu tout de même d'où vous arrivez, qu'est-ce que vous avez fait avant ça, quelle est votre formation? Ben, on ne passera pas une demi-heure là-dessus, là, mais pour vous connaître un peu.
Ouais. Ben moi, je suis originaire du Saguenay, de Chicoutimi plus précisément. J'ai une double formation, bac en histoire de l'Université du Québec à Chicoutimi et bac en droit. J'ai fait mon barreau, mais j'ai quitté le barreau quelques années plus tard parce que Comme j'aime le dire, je suis un avocat non pratiquant. Je suis plus un juriste qu'un avocat parce que je me suis dirigé dans l'enseignement au Cégep de Jonquière. On a un programme exclusif que vous connaissez probablement qui s'appelle Arts et technologies des médias.
Absolument.
Qui forme de façon exclusive au Québec des journalistes, des animateurs radio,
très réputés.
Alors, j'enseignais dans ce programme. Je donnais des cours d'actualité aux étudiants en journalisme. Et en 2007, je me suis présenté à l'investiture du Parti québécois dans Jonquière et j'ai été élu député à ce moment-là. Moi, je suis membre militant du Parti québécois depuis 1987. À l'époque, j'avais 17 ans, j'étais étudiant au cégep de Chicoutimi. Et ce qui m'a toujours motivé dans mon engagement politique, c'est l'indépendance du Québec et la justice sociale. Donc, la recherche d'une plus grande justice sociale. Et c'est ajouté un troisième pilier à mon engagement politique qui est la lutte contre la crise climatique.
L'environnement. Et là, en 87, vous arrivez donc sous Pierre-Marc Johnson.
J'ai pris ma carte, imagine, ça pouvait pas être un moment plus charnière dans l'histoire du Parti québécois. Novembre 87, le fameux mois où à la fois René Lévesque est mort et où Pierre-Marc Johnson a démissionné. Dans la même période, et quelques mois après, M. Parizeau est arrivé comme chef du Parti québécois. Donc moi, j'ai vraiment commencé à m'impliquer de façon active au Parti québécois sous la direction de Jacques Parizeau. Mais déjà à la base, ce qui avait motivé mon adhésion au Parti québécois, c'était l'indépendance et la justice sociale.
Alors, vous arrivez dans une sorte de tourmente à cette époque-là, et alors vous connaissez ça, vous, la tourmente au PQ, et le ouais. passage, les allers-retours entre bon gouvernement et indépendance plus proactive, parce que c'était ça aussi, le passage de Johnson à Parizeau.
Aussi, à ce moment-là, effectivement. Ensuite, j'ai été très impliqué. J'ai eu l'immense bonheur de siéger au Comité national des jeunes du Parti québécois, l'exécutif national du Comité des jeunes, de 93 à 96, avec l'arrivée de M. Bouchard. Donc, pendant 3 ans, sous la présidence de Éric Bédard, qui est historien aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, nous étions ensemble à l'exécutif national des jeunes du Parti québécois. C'était des moments extraordinaires parce que c'est l'époque...
Pleine période référendaire,
évidemment. Oui, mais aussi d'élection du majoritaire du gouvernement du Parti québécois en 1994, avec M. Parizeau comme premier ministre. Ensuite, la période référendaire. Donc, c'était une période extrêmement riche et très, très remplie d'émotions de toutes sortes, mais aussi d'engagement politique pour l'étudiant universitaire que j'étais à ce moment-là.
Bien, parlons-en de la politique. Alors, parce que là, dans cette course qui nous occupe, vous occupez un rôle particulier. Je ne sais pas si c'est une première depuis un bout de temps, peut-être pas, mais vous êtes le seul candidat dans cette course qui est aussi membre du caucus, qui avait été élu, qui est élu pour le Parti québécois. Les autres sont des gens d'extérieur, entre guillemets, même si Paul Saint-Pierre Plamondon s'est déjà présenté à la chefferie. Frédéric Bastien, on sait bien qu'il est dans la famille souverainiste. On le s'en doutait pour Guy Nantel aussi. Mais enfin, vous êtes un élu du Parti québécois. Et par conséquent, contrairement à eux, vous avez une sorte de bilan, si on peut dire, à défendre. Ou en tout cas, vous avez participer à ce qu'a été le Parti québécois et à ce qu'il est jusqu'à maintenant. J'imagine que tant les membres du PQ que l'électeur, les gens de façon plus large, veulent savoir quelle lecture vous faites de ce qui s'est produit au cours des années pour le Parti québécois ces dernières années, depuis la période, disons, de Pauline Marois, le gouvernement de Pauline Marois, dans lequel vous avez été ministre.
J'ai participé, ouais.
D'ailleurs, ministre des Transports, ministre aussi
des Affaires municipales. Des régions et de l'occupation du territoire.
Rien de moins.
Ouais.
Quelle lecture vous faites de cette période qui a en quelque sorte culminé avec la défaite d'octobre 2018 avec Jean-François Lisée à l'époque là, comme chef?
Écoutez, ça nous prendrait plusieurs émissions pour faire tout le tour de la question, parce que pour moi, il y a des éléments, je dirais, macro, au sens des enjeux sociaux, quand même le fait que nous...
Qui dépassent les décisions prises par le Parti québécois, vous voulez dire?
Oui, qui dépassent ou qui expliquent le contexte. Mm-hmm. Par exemple, le fait que depuis 2003, nous avions un gouvernement libéral de Jean Charest et ensuite le gouvernement de M. Couillard, le gouvernement libéral, qui avait réduit à néant toute revendication nationaliste du Québec. Donc, pendant 15 ans, presque sans interruption, sauf à la trop courte période où on a occupé le siège du gouvernement de façon minoritaire, on a eu des gouvernements du Québec qui se sont succédés sans faire aucune revendication pour la liberté du Québec, pour plus de pouvoir pour le Québec. Et c'est, ça a l'air fou à dire, mais M. Couillard, encore moins que M. Charest. Sur le plan nationaliste. Donc, c'est quand même majeur. C'est venu colorer l'ensemble du portrait social au Québec.
Est-ce que cela, donc, aurait nuit au Parti québécois? Ça explique, d'après vous, en partie... Parce qu'on va se le dire, c'est pas... Les choses ont déjà mieux été pour le PQ.
Oui, tout à fait. Mais je pense que quand un gouvernement est aussi à plat ventre, quand un gouvernement envoie le signal à sa population qu'il faut quasiment s'excuser d'être québécois puis de parler français en Amérique, ça met le focus ailleurs. Il faut jamais ignorer l'importance d'un gouvernement pour placer l'agenda des enjeux politiques et de l'actualité au Québec. Alors, pendant 15 ans, presque sans interruption, on a eu des gouvernements qui ont placé l'agenda d'un Québec en dessous du tapis, d'un Québec qui ne faisait pas de revendications. Alors, pour nous, ça venait compliquer les choses aussi, parce que là, présentement, si on fait la comparaison, on a un gouvernement de M. Legault,
plutôt nationaliste, justement,
exact,
pour employer vos
qui
termes.
Qui revendique
davantage.
Oui. Davantage. Donc, ça remet cet enjeu-là. Il faut y donner ça, là, au gouvernement de M. Legault. Ça remet l'enjeu sur la place publique, sur la table. Et là, nous, on peut faire du judo pour aller plus loin.
Mais
on
n'avait
pas ça. Puis là, je ne veux pas m'excuser. Je ne veux rien excuser.
Ah ben non, on entreprend l'examen. Peut-être que vous allez me dire que le PQ a aussi fait des erreurs.
Exact. Puis là, juste pour terminer mon explication, ça, c'est ce que je vous disais, c'est l'aspect macro. Mm-hmm. Sur l'ensemble du portrait social. Et si on s'en va plus bas dans l'entonnoir, ben là, au Parti québécois, moi, je suis prêt à reconnaître qu'effectivement, on n'a pas nécessairement posé tous les bons gestes ou les meilleurs gestes. Notamment, je pense que sur plusieurs enjeux, on a manqué de cohérence et on a voulu parler à trop de monde en même temps.
Parlez un peu plus d'axe gauche-droite, par exemple, l'exploration et l'exploitation.
Puis l'enjeu environnemental.
Sur le pétrole, par exemple.
Exact. L'enjeu environnemental, l'enjeu gauche-droite, on pourrait le détailler. Mais là où ça nous a amené à parfois se contredire face aux électeurs. Et ça, je dirais que c'est un problème qu'on a eu, je pense. Alors moi, je crois, puis je plaide, puis c'est ainsi que je me présente devant les membres du Parti québécois pour devenir le chef.
Mais là,
en disant, on a
besoin
de cohérence.
Vous me dites, donc, revenons un instant sur le national, les revendications nationalistes éventuellement, donc l'indépendantisme aussi. Vous me dites que les libéraux ont, en quelque sorte, désactivé ce débat-là. Ils ont eu la main mise sur... la teneur du débat public, là, puis on a un peu sorti ça de l'écran, mais on pourrait vous répondre facilement que le Parti québécois s'est pas prié non plus pour mettre lui-même son option fondamentale de côté. On pense à la période Lysée, évidemment, mais aussi en bonne partie sous Pauline Marois. Là, on a dit, bon, écoutez, nous sommes indépendantistes, mais vous, Québécois, n'êtes pas prêts pour une proposition claire là-dessus. Donc, on va d'abord mettre le bon gouvernement en priorité. Est-ce que vous faites la même lecture que moi de ça?
Ouais. Ben, pour moi, ça n'a jamais été aussi clair que ça, de dire... Tu sais, il n'y a pas un moment là où, par exemple, un chef, Mme Marois ou quelqu'un d'autre, a dit « Là, on met l'indépendance de côté et on parle juste du bon gouvernement. » Moi, je ne suis pas capable de cibler ça dans l'histoire. Si vous êtes capable de me le trouver, le moment où ça s'est passé, là, précisément, j'aimerais ça le savoir. Même avec Jean-François Lisée qui a dit « On va reporter le référendum après dans un deuxième mandat », il reste que, fondamentalement, il a parlé d'indépendance, il a parlé de souveraineté. Peut-être
devant
pas suffisamment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi clair que ça qu'il y a un moment où il y a eu un tournant. Puis en même temps que je dis ça, je veux rien excuser encore une fois, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que de bonne foi, le Parti québécois, avec Mme Marois, avec d'autres, on a essayé plein de stratégies qui ont contribué d'une certaine manière
à
nous rendre confus face aux électeurs. Je suis prêt à le reconnaître. On a essayé la gouvernance stratégique, la
souverainiste.
Mais on a essayé la gouvernance souverainiste. On a essayé toutes sortes de choses.
Ben alors, la gouvernance souverainiste, c'était ça. C'était de dire, bon, on n'ira pas tout de suite pour le fameux grand soir. On va commencer par gouverner pour...
Poser des gestes.
Oui, et alors, faire avancer le Québec vers la souveraineté, hein, c'était la terminologie de Pauline Marois. D'ailleurs, vous la reprenez en partie maintenant, cette terminologie-là.
Ben, sans
donner l'appétit aux Québécois à nouveau du pays en leur faisant faire des petits gains. Bon, Moi, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais il me semble qu'on peut constater là qu'il y avait une certaine prise de recul par rapport à un indépendantisme qui se cristallise dans un engagement référendaire comme sous Jacques Parizeau. Là, on dit « oui, vous votez pour nous, puis on se dépêche de faire un référendum au premier moment. »
Ce à quoi je suis d'accord. Je veux dire,
il y a eu un changement là tout de même. Là,
qui, ben, oui,
si c'est pas un point de tournant, un moment précis, c'est une sorte de glissement après 95. Là,
Oui. Il y a eu un glissement après 95 où les gouvernements, par exemple, de Lucien Bouchard, après la défaite référendaire de 95, ont dit ben là, la priorité, c'est de faire le ménage dans les finances publiques.
Le déficit zéro.
Déficit zéro, mm-hmm. La loi sur le déficit zéro qui m'inspire d'ailleurs pour un déficit zéro climatique, là. On pourra en reparler éventuellement, mais je pense qu'on est rendu là dans la société québécoise, enfin. Donc, là, on a... on est allé là-dedans, on est allé dans la bonne gestion de l'État québécois pour faire avancer le Québec. Puis, je veux dire, j'y ai contribué, puis j'étais d'accord avec ça, mais sans exclure notre volonté de devenir un pays puis de former un pays, mais il reste que on avait face à nous un gouvernement qui faisait aucune revendication pour le Québec. Alors ça, c'est quand même dominant là, dans le portrait. C'est comme l'éléphant dans la pièce, là, on ne peut pas l'ignorer. Est-ce que ça excuse tout? Non. Mais ça nous donne un élément de contexte. Moi, je vous disais d'entrée de jeu, je suis historien de formation, donc j'ai tendance à... C'est une déformation professionnelle, là, peut-être, d'essayer de comprendre le portrait global là, t'sais, dans lequel on a évolué. Puis je pense que c'est là-dedans que nous étions.
Alors
maintenant,
donc pour
on
vous,
est rendu ailleurs.
C'est ça. Au terme de cette période-là, supposons qu'elle se termine maintenant avec l'arrivée de Sylvain Gaudreau comme chef du Parti québécois, par exemple. Là, ce qui changerait, donc, ce serait, si on a un bilan à faire de ces années-là, vous iriez vers plus de clarté sur l'axe gauche-droite, si je comprends
entre
bien.
Et sur l'environnement. Oui, beaucoup
sur
plus de cohérence, puis beaucoup plus de clarté.
Et pour la question de la souveraineté, vous dites quoi? Vous dites...
un référendum dans un premier mandat majoritaire. Mais je vous le dis tout de suite, je ne veux pas qu'on fasse un débat. Je l'ai dit encore tantôt en entrevue, parce que j'arrive d'aller chercher mon bulletin. Là,
le référendisme.
Moi, je ne suis pas un référendiste. Moi, je suis un indépendantiste. Je ne veux pas faire un débat de date. Moi, je veux faire un débat sur le fond des choses, sur l'indépendance. Puis c'est une évidence qui crève les yeux qu'un gouvernement majoritaire du Parti québécois va organiser un référendum, pour moi. Mais le vrai objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir ce gouvernement majoritaire. Donc là, on a quelques années devant nous. Alors, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on fasse un argumentaire fort, solide. Mais aussi, il faut qu'on pose des gestes. Et si tantôt vous avez fait mention à la gouvernance souverainiste, moi, je ne veux pas parler de ça parce que pour moi, il y a quand même des bonnes distinctions à faire. Mais on est déjà à l'Assemblée nationale. Pas de façon aussi nombreuse qu'on le voudrait. Mm-hmm. Nous avons 9 députés. On en a fait élire 10. Malheureusement, il y a Catherine qui nous a quittés. Mais nous sommes 9 députés.
Catherine Fournier, donc.
Catherine Fournier, oui.
Qui était ici récemment, qui disait,
ouais.
Moi, je ne retourne pas au Parti québécois.
C'est
non,
dommage.
Je vais vous poser des questions là-dessus. Okay, comment vous allez ramener les jeunes?
Ouais, c'est ça. On pourra en reparler. Mais,
parce que vous voulez
faire
un objectif
de ça. Il faut qu'on soit capable de poser des gestes positifs dès le lendemain de mon élection comme chef. Puis moi, c'est ça que je veux faire. Moi, j'ai toujours été dans l'action. Moi, j'ai toujours donné des résultats par l'action. Puis moi, je vous disais tout à l'heure, je me considère humblement comme un héritier de l'ère de Parizeau. Parce que moi, j'ai commencé à militer avec Parizeau. Il m'a beaucoup, beaucoup inspiré, le sens de l'État, les actions qu'il posait. Souvenez-vous, au moment du lac Meech, je tends la main à mon premier ministre. Il disait ça à M. Bourassa.
C'est pour ça que vous voulez tendre la vôtre vers François Legault.
Ben, c'est parce que moi, je suis conscient de où on est présentement. On est troisième parti d'opposition. On a 9 députés. Mais on a quand même des possibilités d'avancer en étant à l'Assemblée nationale. Je l'ai fait dans plein de domaines, dans les dossiers que j'avais en environnement, entre autres, puis avec les personnes retraitées sur d'autres dossiers, etc. Donc, il faut qu'on soit capable d'avancer avec ce qu'on a. Et là, on a des outils. Il faut qu'on... Et moi, je suis profondément convaincu que plus les Québécois vont gagner des espaces de liberté, plus ils vont vouloir la totale, qui est l'indépendance. Moi, je suis dans une optique positive. Et comme élu, comme député légitimement élu, moi, je veux que le Québec gagne. Moi, je fais pas de la politique de façon négative. Moi, je fais de la politique de façon positive. Plus on avance, mieux c'est. Puis, en étant conscient de où on est présentement. Et ceci étant dit, ça veut pas dire que je veux qu'on en reste là, évidemment. Moi, je souhaite qu'on ait le plus de députés possible à l'Assemblée nationale. Alors là, il faut qu'on se réorganise. Le Parti québécois, là, a mangé toute une dégelée le 1er octobre 2018. Alors là, il faut qu'on se réorganise. Partout à travers le Québec, là, il y a plein de régions, là, présentement, là, qui sont en problème de recrutement ou de mobilisation des membres du Parti québécois. Donc, on doit faire un travail très fort pour ça. C'est ça qu'on va faire.
Bien là, vous êtes en train de me dire que le Québec peut gagner, faire des gains ou obtenir davantage d'espace ou de pouvoir dans le Canada avant la souveraineté, en quelque sorte? Est-ce qu'il n'y a pas un message contradictoire?
Non, ben, moi,
ça ne fait pas partie du problème, au fond, dans le rapport qu'entretient le PQ à la souveraineté là, depuis un certain nombre d'années.
C'est parce que, moi, je veux saisir les leviers que nous avons présentement pour faire avancer le Québec. Et je le répète, plus le Québec va avancer, plus on va en vouloir. Et je veux aussi, de façon politique, face à un gouvernement qui se dit, puis j'insiste sur « se dit », nationaliste, de le pousser dans ses derniers retranchements. Il faut démasquer ce nationalisme de François Legault. Alors, quand François Legault écrit une lettre au chef des partis fédéraux à l'occasion de l'élection l'année passée, fédérale, d'octobre 2019, il fait 7 demandes, notamment plus de pouvoir en matière de santé, un rapport d'impôt unique, en matière d'immigration. Puis il fait une demande également, c'est la dernière des 7, d'avoir tous les pouvoirs en matière d'environnement.
Nous savons, vous et moi, que la plupart de ces demandes-là ne seront pas
Oui, mais s'il fait la demande, il faut qu'on le pousse au bout de sa logique. S'il fait la demande, ça veut dire qu'il les veut, ces pouvoirs-là. Moi, je suis député de la troisième opposition. Alors, on va se servir de ces demandes du premier ministre québécois pour aller au bout de la logique. On va le prendre au mot. On va dire, vous avez dit ça, M. Legault? On va y aller ensemble. En attendant l'élection de 2022. Moi, je veux qu'on avance immédiatement. Donc, en matière d'environnement, vous avez demandé aux chefs fédéraux de se positionner pour que le Québec ait tous les pouvoirs en matière d'environnement. Puis plus que ça, le procureur général du Québec l'a écrit noir sur blanc dans plusieurs pages, dans un mémoire qui est déposé à la Cour suprême sur la question de la taxe carbone, que ça devrait relever l'environnement que des provinces. Alors, on va le prendre au mot. On va demander, avec l'appui du gouvernement actuel, au gouvernement fédéral de rouvrir la Constitution pour clarifier ça. Parce que l'environnement n'était pas un des dossiers ou un des enjeux en 1867 lors de la fondation de la Constitution canadienne.
Mais est-ce qu'en voulant faire ça, vous accréditez pas en même temps la thèse de François Legault qui est de dire « Oui, oui, on peut aller chercher plus à l'intérieur du Canada. » Est-ce que, je pose la question, encore une fois, je ne juge pas, mais est-ce que comme indépendantiste, vous pourriez pas plutôt, par exemple, dire « Monsieur Legault, on sait que ça marchera pas, donc passons tout de suite... » à une démarche d'indépendance.
Oui, mais moi, je veux en faire la démonstration.
Vous pensez qu'elle n'est pas faite encore?
Je pense qu'on doit la refaire. Elle est faite, mais il faut constamment la faire. Et vous me parliez tout à l'heure, vous avez fait allusion au fait qu'il faut aller chercher les jeunes. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai pris l'engagement dans cette course.
C'est parce que je sais que c'est votre engagement, oui c'est ça.
Exact, d'être le premier chez les jeunes, chez les électeurs de 18 à 35 ans, que le Parti québécois soit le premier en 2022. Bon. Mais il faut remettre cet enjeu-là à l'avant-plan. L'enjeu des pouvoirs, l'enjeu de la Constitution.
Là,
parce que les jeunes de 18 à 35 ans, dans cette tranche-là, il n'y a personne qui a connu le référendum de 95.
Mais vous amenez de l'eau à mon moulin, hein, dans une certaine façon, parce que les jeunes ont, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a une bonne portion de jeunes qui se sont un peu désintéressés ou se sont mis à s'interroger sur le Parti québécois au fil des démarches nationalistes, justement, ou identitaires, comme la Charte des valeurs, puis maintenant l'appui à la loi 21 de la CAQ. Vous le savez, là, il y a une bonne portion des jeunes plus progressistes qui n'aiment pas ces choses-là.
Oui.
Et là, si vous vous inscrivez dans une démarche qui est une forme d'appui à la politique de François Legault nationaliste, est-ce que c'est pas moins séduisant, ça, pour des jeunes que justement dire non, nous, plutôt que d'être une province identitaire, nationaliste, revancharde dans le Canada, nous voulons plutôt un pays souverain qui pourra être plus ouvert et ainsi de suite.
Mais c'est ce que je veux faire. Donc, pour ça, il faut en faire la démonstration. Et il faut utiliser tous les moyens qu'on a pour amener M. Legault au bout de sa logique, au bout de sa logique nationaliste. Moi, je suis convaincu que dans la coalition Avenir Québec, il y a deux groupes. C'est une coalition. Il y a des fédéralistes.
Ah oui, il y a des péquistes aussi.
Il y a des péquistes et des indépendantistes.
Oui.
Alors, là, vous allez dire que je fais de la stratégie ouverte, mais on est dans une course à la direction, il faut que je me positionne.
On est entre nous.
Oui, il n'y a personne qui... c'est ça. Mais vous comprenez qu'il faut aller au bout de la logique. Si M. Legault, avec l'accord de son caucus et de son conseil des ministres, demande formellement, comme il l'a fait, tous les pouvoirs en matière d'environnement, puis on pourrait multiplier, comme le rapport d'impôt unique, l'immigration, etc. Mais si on prend juste le volet environnement, bien, s'il demande, il faut qu'il aille au bout de sa logique. Au bout de sa logique, s'il veut avoir les pouvoirs, c'est quoi? C'est que le Canada nous les accorde. Alors, si le Canada, dans un éclair de génie, ou parce que M. Trudeau est présentement minoritaire, puis il y a beaucoup de députés du Bloc Il décidait de toute bonne foi de nous donner tous les pouvoirs d'environnement. Moi, j'applaudirais, tant mieux, le Québec a avancé. Regardez ce que ça nous donne comme nation. Est-ce que ça ne vous donne pas le goût d'avoir la totale, d'avoir tous les pouvoirs d'un pays?
Mais quelqu'un peut vous répondre.
On a le goût d'aller plus loin.
Oui, mais ça démontre au contraire qu'on est bien dans le Canada puisqu'on obtient des pouvoirs. Ça peut jouer dans les deux sens.
Mais tant qu'à ça, ça va être la politique du pire. On ne fera jamais rien. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Je veux que le Québec avance. Je suis convaincu qu'en avançant, les Québécois vont vouloir avoir encore plus de pouvoir. Ça s'appelle l'indépendance. On va y prendre goût et on va voir que nous sommes capables. Il faut qu'on fasse cette démonstration-là aux jeunes, comme aux moins jeunes, mais particulièrement aux jeunes qui n'ont pas vécu les enjeux constitutionnels que moi j'ai vécu, que vous avez probablement vécu aussi dans les années 90, dans les années au référendum de 95. Il faut remettre ça à l'ordre du jour parce que pendant 15 ans, on a eu des gouvernements qui ont fait aucune revendication nationale. Ça veut dire que les jeunes de 18 à 35 ans, là, ils ont pratiquement connu toute leur vie des gouvernements libéraux qui étaient plus bas qu'un sous-tapis. Donc, c'est la réalité. Alors, il faut qu'on remette ça à l'avant-plan, et ça, c'est notre responsabilité, comme parti indépendantiste, de le faire. Et moi, je suis convaincu, encore une fois, que les jeunes sont attirés par une politique qui est positive, qui est constructive. Moi, je commence à construire une maison en faisant le sous-sol, le solage, puis après ça, en construisant les murs, puis la finale, c'est que la maison soit là au complet. Bien, ça, c'est l'indépendance.
Alors, vous référez donc à Parizeau qui tend la main à Bourassa dans ses tentatives d'améliorer le Canada, plutôt que quelqu'un qui dirait, bon, là, on a déjà joué dans ce film-là, maintenant, allons, comme vous dites, à la totale.
Mais je veux dire, je suis conscient de cette histoire-là, mais il faut qu'on reparte le compteur à zéro, puis qu'on remette cet enjeu-là à l'avant-plan. Puis là, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un gouvernement qui au moins a réhabilité l'enjeu national. Mais moi, j'ai hâte de voir jusqu'où ils sont prêts à aller. J'ai hâte de voir les débats, moi.
Ben jusqu'où ils peuvent, aussi, parce que...
Jusqu'où ils peuvent, mais jusqu'où ils sont prêts, parce que je serais curieux d'être un petit oiseau dans le Conseil des ministres, puis de voir un débat là, sur une proposition que le Parti québécois va amener quand je serai chef, pour avoir tous les pouvoirs en matière d'environnement. Je serais curieux de voir les interventions d'Éric Girard, ministre des Finances, ancien candidat conservateur, de Christian Dubé, Conseil du Trésor, puis Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, les trois bonzes de l'économie, là, face à d'autres, comme François Legault, qui est un ancien indépendantiste quand même, qui était assez pressé, puis d'autres qui sont autour de la table du Conseil des ministres, qui sont plus nationalistes. Alors moi, c'est ça que je veux faire. Il faut démasquer la coalition Avenir Québec dans son pseudo-nationalisme. Puis ça, c'est le travail qu'on doit faire à l'Assemblée nationale.
Ben, concluons sur la question de l'option, la condition nationale du Québec puis de l'option première du Parti québécois, parce qu'on n'a quand même pas passé l'heure là-dessus. Mais,
on est
bien parti pour ça. Ouais, ben oui. Mais ce que j'allais vous dire, c'est juste pour que je comprenne bien, parce que jusqu'ici, j'entends, et puis c'est pas une insulte dans ma bouche, mais j'entends une forme de continuité avec le discours de Pauline Marois, c'est-à-dire faire avancer le Québec avec tout ce dont on dispose pour le moment, prendre acte de la situation actuelle. Ce qu'on lit ici entre les lignes habituellement, c'est, bon, écoutez, on peut pas gagner un référendum prochainement, ce serait une folie que d'en faire un. Commençons par soit faire des gains, soit montrer que ça bloque dans le Canada pour pouvoir plus faire de gains par la suite. J'y vois donc une continuité et ça m'amène à la question suivante. Si finalement vous prenez le pouvoir, c'est pas impossible, hein? Ça change vite en politique.
Oui, tout à fait. On le veut avec le bloc.
Vous êtes au pouvoir dans 5 ans, je sais pas quand.
En 2022.
Bref, éventuellement. Et vous avez été élu avec quoi de nos jours? Je sais pas, 40% des voix ou quelque chose comme. Il faudrait voir les chiffres des derniers gouvernements.
37%.
Ça peut être là même.
Mais un gouvernement majoritaire, donc.
Est-ce que vous dites aux Québécois en campagne électorale, oui, moi, quand je serai au pouvoir, je vais tout de suite enclencher la démarche référendaire pour qu'on puisse se poser la question d'indépendance et la réaliser après, ou vous allez dire je vais gouverner en souverainiste pendant un certain temps pour faire la preuve de ceci, de cela?
Je vais gouverner pour faire la preuve de ceci, de cela, mais on va avoir un référendum dans le mandat.
C'est éventuellement.
Clair. Oui. Okay. Mais à ce stade-ci, je ne veux pas vous dire ce que ça va être au bout d'un an,
pour vous,
un
c'est
demi,
pas antinomique.
18 mois.
Non, c'est ça, parce que le discours sur les débats de date et les calendriers, c'est souvent un discours qui a été, oui, mais c'est un discours qui a été employé pour dire ceux qui voudraient être clairs là-dessus sont des gens qui sont déraisonnables, en fait. Ils veulent aller trop vite, trop loin. On a l'air fou avec notre référendum. Gardons ça un peu sur le rond en arrière.
Moi, je pense que si les Québécois votent pour un gouvernement du Parti québécois majoritaire, c'est un signal qu'ils acceptent de faire un référendum.
Il y a un terrain, là.
Il y a un terrain.
Il y a une base.
Alors moi, mon objectif, c'est de gagner ce gouvernement majoritaire et on va tout faire pour y arriver. Et en même temps, moi, je fais de la politique dans le réel. Je fais pas de la politique dans les airs ou dans des nuages. Puis, j'aime pas ça, là, mais il reste que les sondages actuellement nous donnent à l'indépendance autour de 25 à 30 %, 35,
là, quand ça, quand ça va
mieux, ouais. Mettons,
mais le Parti québécois est plus bas que ça.
Oui, je sais, mais justement, c'est parce que ça, c'est l'autre problème, c'est que les indépendantistes ne font pas nécessairement de l'indépendance leur premier choix quand ils vont voter. Il y a des indépendantistes qui vont dire « Moi, je suis indépendantiste, mais mettons, les enjeux de santé m'interpellent plus pour
mais
l'instant. »
D'autant moins lorsque le parti qui devrait apporter l'idée dit lui-même « C'est pas mon premier enjeu, c'est un enjeu de fond, mais d'abord, je vais faire le bon gouvernement. » Et là, vous évaluez les propositions de bon gouvernement et là, vous vous retrouvez à Québec solide, à
la mais il faut en parler davantage. Puis pour ça, je vous dis, il faut qu'on se mette en action tout de suite. Et moi, l'élection du chef est le 19 juin, la session parlementaire sera terminée, mais dès la rentrée de septembre 2020, on va se mettre en action pour utiliser les outils qu'on a pour faire avancer le Québec puis montrer les avantages d'une indépendance. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'on va faire avancer la cause juste en l'invoquant puis en en parlant. Ça en fait partie.
Ça, c'est Gilles Duceppe. Il ne faut pas répéter le mot tout le temps en pensant que ça va faire
que ça
avancer
va nous tomber
la cause.
Dessus. Il faut qu'on avance, il faut qu'on pose des gestes. Puis moi, c'est ça le bout que je propose. C'est de dire, oui, on va en parler. Oui, on va le rendre concret pour des étudiants ou des jeunes, par exemple, sur les enjeux contemporains comme le climat, comme la question de la culture, la question du contenu francophone dans les Netflix et autres Disney de ce monde, bon, puis ainsi de suite. Alors, on va rendre ça concret avec des enjeux actuels. Puis on va passer à l'action pour que ça avance dans ce sens-là, dès maintenant. Parce qu'il faut faire, il faut passer de 25 à 40 % là, l'adhésion à l'indépendance, mais au moins 40 %.
C'est aussi parce que pour boucler la boucle, vous m'avez parlé au début d'un Parti québécois qui est dans une forme de crise d'identité, au fond. C'est-à-dire que...
De moins en moins.
Oui, bien là, vous souhaitez, puis vous voulez travailler à ce que ça soit de moins en moins le cas, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, on n'est plus certain s'il est un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus souverainiste, un peu moins. Et par conséquent, est-ce que la meilleure façon de se donner à ce parti-là une consistance, mais une cohésion, c'est pas justement de redevenir clair. Est-ce que ça devrait pas aller de soi, en fait, qu'un parti qui se dit indépendantiste? Parce que c'est pas une petite affaire, là, l'indépendance. C'est pas une position comme une autre
sur
un
dossier. C'est pas banal, là. C'est pas une note en bas de page.
Ça définit ce que vous êtes beaucoup. Ouais. Et c'est très clivant aussi. Donc, si vous êtes toujours un peu entre deux chaises là-dessus, vous perdez des deux côtés du clivage, en quelque sorte. Tandis que si vous êtes clair, si vous dites, ben ça va de soi. Quand je suis élu, je procède.
Mais je pense que je suis clair.
Ben, je vous pose la question.
Ben, moi, pense que je suis clair, mais en même temps, c'est que je suis concret. Je suis clair, ça nous prend un référendum dans un premier mandat majoritaire, sauf que c'est pas juste en disant ça qu'on va l'obtenir. Il faut que c'est plus
préparer le terrain.
Ben oui, il faut préparer le terrain. C'est plus exigeant que simplement dire ça puis penser que ça va nous tomber du ciel. Ça tombera pas du ciel, surtout pas avec les ennemis qu'on a.
Revenons aux jeunes.
Ouais.
Je voyais des chiffres, vous aussi sans doute, récemment. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de divorce entre la jeunesse puis le Parti québécois. Jeunesse au sens large, là.
Divorce, c'est peut-être fort un peu.
Ben, en tout cas, il y a
un désamour.
Ça a changé. On va dire ça comme ça. Il y a eu un virage. Oui, bien, des amours. On n'est pas très loin du divorce.
Avant le divorce, là. OK. Bon. Le divorce est fort un peu.
Vous apportez une nuance, donc.
C'est ça.
Bref, ils sont beaucoup plus un peu partout, sauf au PQ. On
est quatrième selon les intentions de vote chez les 18-35, là.
Oui. Ouais. On parlait des... Alors, comment ça se fait? Parce que vous amenez souvent, et on a entendu ça au Bloc et aussi au Parti québécois depuis André Boisclair, l'environnement. Vous dites, avec des éléments comme celui-là, nous allons ramener la jeunesse vers nous, ça n'a pas l'air de marcher.
Mais pas que ça non plus, quand même. Là. C'est, ouais.
Non, mais l'environnement, des positions progressistes sur diverses questions.
Oui, mais moi, je refuse de mettre toute la jeunesse dans le même panier. Là. La jeunesse est très diversifiée aussi. Il y a des jeunes qui sont au cégep, il y a des jeunes qui sont à l'université. Puis à l'université, il y a des jeunes dans les sciences sociales, puis il y a des jeunes
en région,
en génie.
Il y en a en ville.
Oui, il y a des jeunes qui travaillent dans des usines. Moi, j'en vois beaucoup dans ma circonscription.
Ils ne sont pas à Québec solidaire, ceux-là, souvent.
Exact. Exact. Qu'on arrête de mettre tous les jeunes dans le même panier. C'est faux. Les jeunes sont aussi diversifiés que les autres générations. Là.
Mais là, c'est vrai que la jeunesse progressiste branchée est plutôt partie vers Québec solidaire. On va dire ça comme ça.
En partie, en tout
elle
cas.
Elle était au Parti québécois avant cette jeunesse.
Ouais, ouais. Mais il y a quand même un bon bout de ça. Donc, effectivement, on a moins parlé peut-être à la jeunesse. Ou en tout cas, la jeunesse s'est moins intéressée au Parti québécois pour toutes sortes de raisons. Je pense que la question du... du manque de cohérence. Ce qu'on parlait d'entrée de jeu, la question du manque de cohérence a certainement joué là-dedans. Il va falloir qu'on aille les voir. Première chose à faire, c'est de les écouter. Qu'on arrête de penser qu'on a toutes les solutions toutes faites. Alors moi, là, le lendemain de mon élection comme chef, je vais commencer une tournée, oui, des cégeps, oui, des universités. Une fois que j'aurai fait le tour, je vais recommencer, mais je vais aller aussi dans les milieux de travail. Moi, j'ai une usine là, chez moi, pas du forestier résolu, c'est ce qu'on appelait avant des pâtes et papiers. Il y avait 8 machines, il en reste une, imaginez. Je suis allé l'autre fois pour une annonce.
Ils manquaient pas de matériel, eux, à cause de la crise ferroviaire là, récemment.
À Dolbeau. Oui. À Dolbeau, ouais. Chez nous, à Kenogami, c'est un petit peu moins pire, là, mais Dolbeau, c'est parce qu'ils sont plus, ils ont plus besoin du chemin de fer pour expédier leurs marchandises. Enfin, mais c'est une usine que je connais bien parce que c'est au cœur de ma circonscription, j'y vais souvent. Mais l'autre fois, je suis allé pour une annonce. Ça faisait quelques mois que je n'étais pas allé, puis j'ai été frappé par, en quelques mois, le renouvellement majeur de la main-d'œuvre. Il y a eu comme une vague de retraite des boomers qui ont pris leur retraite après 25-30 ans de service chez Produits forestiers résolus.
Alors là, et les là, plus jeunes arrivent en masse.
En bas de 30 ans ou début trentaine, qui ont des jeunes familles. Ça, c'est des jeunes là, à qui on doit parler dans, sur les planchers
la
CAQ,
le Parti libéral, souvent.
Ben, oui, peut-être qu'il y en a qui appuient QS là-dedans, mais je ne sais pas au juste. Je n'ai pas posé directement la question pour qui appuie, mais la question n'est pas là. C'est d'aller voir, d'aller les écouter, d'être auprès d'eux, refaire des alliances, entre autres, avec des forces syndicales pour être capable d'aller leur parler directement sur les plancher d'usine dans les, pendant les heures de lunch pour aller voir avec eux. Alors, moi, c'est ce que je veux faire. Pas juste les universités, pas juste les cégeps, mais aussi les milieux de travail. Tous les centres ici à Montréal, là, en jeux vidéo, il y a beaucoup de jeunes là-dedans qui ne sont pas à l'université, qui ne sont pas au cégep, qu'il faut aller voir également dans les nouvelles technologies, la nouvelle économie où ils travaillent, puis aller les rencontrer.
Est-ce que vous pensez que moi, j'ai l'impression que la question de la jeunesse pose la question de notre époque de polarisation grandissante, là, les choses, les clivages qui agissent sur l'échiquier politique puis le débat politique en général ont changé au cours des années. Les gauches ou les centres-gauches social-démocrates en Occident, là, vous allez être content, je vois dans le macro, je ne parle pas seulement du Parti québécois, loin de là, sont un peu discrédités un peu partout. On aime désormais les choses plus tranchées, plus claires, les gauches à gauche, comme Mélenchon en France ou ici, éventuellement, Québec solidaire dans une certaine mesure.
Oui, il y a certaines dérives populistes
aussi. Et puis,
les
conservateurs plus conservateurs, les populistes plus populistes. Puis entre les deux, vous avez les sociaux-démocrates qui tombent un peu en deux, un peu dans le vide, et aussi parce qu'ils ont gouverné pendant plusieurs années là, dans les décennies précédentes. Puis là, on a l'impression d'avoir fait le tour de ce jardin-là, puis on veut des solutions plus tranchées. Est-ce que de ce point de vue-là, où est-ce que vous voulez situer le Parti québécois et est-ce que votre position à vous, qui, je crois, est plus dans la tradition social-démocrate que ce que va proposer, par exemple, Frédéric Bastien ou peut-être Paul Saint-Pierre Plamondon. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour M. Nantel, mais où est-ce que vous voyez là-dedans?
Ma nature n'est pas très polarisante. Je ne suis pas quelqu'un de polarisant. Je ne suis pas quelqu'un de confrontant. Je suis plus quelqu'un qui est dans l'adhésion, dans la discussion, dans la conviction. Et c'est comme ça que j'ai l'intention de travailler. Puis je pense que c'est la meilleure façon de le faire également pour avoir une société qui fonctionne bien. Pour moi, c'est pas une question de confrontation. Ce que je remarque également sur le plan politique et surtout chez les jeunes, il n'y a plus de fidélité comme avant envers un parti politique. Puis c'est correct. C'est pas un reproche du tout. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, on disait, quand j'ai commencé à militer justement au Parti québécois, à Chicoutimi, on me disait, « Ah, Sylvain, les filions là, de Chicoutimi-Nord, ça, c'est tout péquiste. » Tu sais, là, si t'es un filion de Chicoutimi-Nord,
ou
t'es un
péquiste. Ou les Bédards, éventuellement.
Ben, les Bédards, évidemment. Oui. Mais là, je parle des grandes familles bien connues. Oui. Puis là, on disait, « Ah, les Simards du rang Saint-Martin puis du rang Saint-Joseph, ça, c'est libéral. » Bon. Puis là, c'était libéral, les Simards du rang Saint-Martin, mettons, de père en fils. Et de mère en fille, de génération en génération. Puis les filions. Bon. Tandis qu'aujourd'hui, si je vais voir les filions de Chicoutimi-Nord ou leurs descendants, ah, ben là, il y en a qui sont caquistes, il y en a qui sont QS, il y en a qui sont encore au PQ, d'autres qui vont au Parti libéral ou qui changent d'une élection à l'autre.
Les clans ont changé, disons, la notion. Là, maintenant, c'est l'université. Correct. Si vous êtes à l'UQAM, vous êtes Québec solidaire.
Ouais,
par exemple.
Quasiment, ouais. Là, c'est comme une bulle, là, quand même. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus ces fidélités-là, ce qui fait en sorte que d'une élection à l'autre, hop, là, on a eu la vague du NPD. En 2011, puis il y a des gens qui votaient NPD qui ont voté ADQ Ils ont voté, disons, ADQ en 2007, puis ils ont voté NPD en 2011.
Oui, puis la CAQ après.
Puis ils ont voté PQ.
Mais il reste qu'il y a une problématique pour la social-démocratie. Là. On a comme l'impression que c'est des solutions mièvres, un peu entre deux, qui ne donnent plus leurs fruits, à tort ou à raison.
Oui. Oui, mais est-ce que c'est juste la social-démocratie? Je pense que c'est les partis traditionnels qui sont là-dedans. Puis évidemment, il y a beaucoup de sociaux-démocrates qui sont dans les partis traditionnels. Mais les partis traditionnels plus conservateurs...
Qui ont gouverné, en fait.
Qui ont gouverné. Exemple, le Parti libéral, ici au Québec. Le Parti libéral, d'une certaine manière, j'en suis convaincu, est plus dans le trouble que le Parti québécois au moment où on se parle, le Parti libéral du Québec. Là,
mais ils ont une base indéfectible... grandissante d'une certaine façon.
Mais qui n'a pas sorti voter à la dernière élection, en 2018. Là, si vous allez voir les taux de participation dans le West Island, par exemple.
C'est parce que vous ne leur faites plus peur, Sylvain Gros. C'est parce que l'enjeu de l'indépendance n'est plus
là. Mais il faut recommencer à leur faire peur. Moi, j'essaie de ne pas être dans une dynamique de peur, dans une dynamique constructive, si on vient ce qu'on disait tantôt, mais je comprends ce que vous voulez dire.
Je me garde. C'est pas vous qui l'avez dit,
non,
c'est moi.
C'est ça.
Mais je veux dire par là que n'instaurez plus ce clivage fédéraliste-souverainiste, alors donc...
Mais c'est ça, mais moi je pense, puis là ça va faire un pont avec ce qu'on disait tantôt, avec le gouvernement soi-disant nationaliste de M. Legault présentement, il y a une possibilité de ramener ce clivage entre nationalistes. Legault est comme un Bourassa 2.0, puis il faut ramener ce clivage nationaliste-indépendantiste, et on a une fenêtre pour le faire. C'est à nous de la saisir. Puis moi, c'est ce que j'entends faire comme chef du Parti québécois.
Je pense que dans ce qui rebute les jeunes aussi, il y a une forme de conflit générationnel, en fait. On voit le Parti québécois comme cette bande de vieux militants nationalistes fâchés qui engueulent les gens sur les réseaux sociaux.
Oui, angry pickist.
Oui, mais il ne faut pas sous-estimer ça. Je pense que c'est un facteur important aussi. Ouais. Et là, il y a une jonction, là. Avec le nationalisme, les demandes déçues, je reviens avec la loi 21 ou la charte des valeurs. Quelle est votre position sur ces éléments-là, la loi 21 en particulier, puis la charte des valeurs du PQ? Est-ce que ça allait trop loin? Est-ce que ça a été mal défendu? Est-ce que vous étiez en faveur, vous? Dites-nous un peu où est-ce que vous êtes sur ça. Est-ce que vous avez une réflexion sur ces questions-là?
Je suis très, très, très solidaire. Pour moi, le respect des institutions est très important. J'ai été membre du Conseil des ministres qui a proposé la Charte des valeurs et j'ai toujours été solidaire des décisions du Conseil des ministres. On a eu des discussions autour de la table que je ne dévoilerai pas ici, mais qui fait en sorte que j'ai été solidaire. Puis je pense qu'à certains égards, la Charte des valeurs a fait beaucoup progresser le débat, a fait progresser la réflexion. Est-ce que sur le plan stratégique, on l'a bien présenté? Pas toujours. Ça, je suis prêt à reconnaître ça. Là où on a manqué davantage, je pense, c'est en 2014, on aurait pu faire avancer davantage l'enjeu de la Charte avec la CAQ à ce moment-là, qui était le deuxième parti d'opposition, et d'attendre avant de déclencher les élections. C'est peut-être le scénario après coup, mais vous savez, c'est facile après coup de refaire l'histoire. Là.
Évidemment, surtout dans une émission de radio.
Oui, c'est ça. Donc, mais sur l'enjeu plus global de la laïcité, évidemment, moi, je suis fortement favorable et un partisan d'un État québécois laïque fort. Ceci étant dit, ça fait des années que nous avons ce débat au Québec. Le gouvernement actuel a adopté la loi 21. On l'a appuyé là-dedans. On avait fait des amendements pour aller un peu plus loin sur un certain nombre de choses. Le gouvernement n'a pas été là-dedans. Ça a été adopté.
Mais là, c'est fait. Puis vous reconduisez la
clause dérogatoire.
La clause dérogatoire.
Au bout de 5 ans.
Au bout de 5 ans. Je voudrais pas faire un pont qui n'a pas lieu d'être, mais puisque le temps nous presse, je vais le faire quand même. L'immigration. Vous avez des adversaires qui sont dans une forme de surenchère, d'unanimité ou de...
Genre de surenchère à l'envers.
Oui, c'est ça.
Donc, un encan chinois.
Monsieur Bastien parle de 25 à 30 000 comme seuil. Paul Saint-Pierre Plamondon, 30-35, quelque chose comme ça. Bref, oublions les combats de chiffres, là, mais ils veulent tous réduire, partant de l'idée que nous avons dépassé, nous, Québécois, notre capacité d'intégration. Il faut s'assurer de pouvoir mieux intégrer parce que nous sommes dans une situation démographique et politique particulière. Qu'est-ce que vous pensez? Vous n'êtes pas là, vous. Stéphane Hanfield s'est joint à vous.
Oui, je suis très, très content, d'ailleurs, parce que...
Avocat spécialisé en droit de l'immigration.
Oui, un des experts, sinon le plus grand expert au Québec en droit de l'immigration, m'a donné son appui après avoir quand même commencé à regarder sérieusement la possibilité de se présenter. Comme j'ai l'appui également des plus récents députés du Parti québécois, Joël Arsenault et Mégane Perry-Mélançon, Île-de-Madeleine et Gaspé, donc qui disent que c'est avec moi qu'ils veulent qu'on continue de faire la politique.
Mais avant de parler de votre engagement précis de dépolitiser le sujet, parlons juste de l'idée même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'on peine à intégrer puis qu'il faut prudence?
Qu'on n'a pas toutes les ressources présentement pour bien intégrer. Les immigrants, ben, quand on parle de bien intégrer, ça passe par le travail, la langue de travail, et ça passe par la francisation. Alors moi, je constate qu'effectivement, qu'il y a encore trop d'immigrants qui vont passer à l'anglais au lieu de passer au français.
À Montréal, évidemment.
Exactement. C'est pour ça que moi, je veux avoir une politique forte en immigration sur la régionalisation de l'immigration. Et ça fait des années qu'on le dit, la régionalisation de l'immigration, mais on ne l'a jamais vraiment réalisé. Moi, je suis un gars de région. Je veux réellement qu'on ait une présence beaucoup plus forte d'immigration en région. Puis les gens des régions souhaitent ça, puis sont prêts à ça, puis ils sont très heureux quand
ils... Mais on dit ça, mais c'est plus difficile à faire qu'à dire, en fait.
Ouais.
Il reste qu'ils s'en viennent à Montréal.
C'est parce que ça fait des années qu'on le fait, qu'on le dit, puis on n'a pas été capable de le faire. Mais à un moment donné, il va falloir inverser le mouvement, là, et qu'il y en ait réellement un déplacement d'immigrants dans les régions du Québec. Ça peut passer par le travail, avec des obligations d'aller travailler en région quelques années. Je pense qu'il faut réfléchir sur ces questions-là parce qu'une fois qu'un immigrant est établi en région, quelques années, ben là, il rencontre des amis, il rencontre peut-être un conjoint-conjointe, commence à avoir des enfants, etc. Alors, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, présentement, effectivement, je ne crois pas que toutes les ressources et tous les moyens ou les institutions sont tournés pour bien franciser et intégrer dans le milieu du travail les immigrants. Mais ceci étant dit, moi, je souhaite qu'on arrête là de piger des chiffres comme quand j'étais jeune, on pigeait des surprises dans une boîte de céréales. Je veux dire, c'est plus complexe que ça. Puis,
mais c'est pour ça que je disais, sortons des chiffres, parlons juste du principe. Est-ce que vous êtes là-dessus, vous, le nombre? Est-ce que vous pensez que là, on en prend trop, puis il faut en prendre moins, mais en prendre soin? Là, je fais.
Ouais,
je vous ouvre une porte pour dire, vous allez être en opposition avec François Legault.
Oui, c'est ça, mais je ne veux pas être en opposition pour être en opposition. Ce que je veux savoir, moi, c'est notre réelle capacité d'intégration en fonction des besoins qu'on a, puis en fonction des ressources, c'est-à-dire que nous avons, et c'est pour ça qu'il faut le dépolitiser. Moi, ce que je souhaite, c'est que rapidement, dès que le Parti québécois forme le gouvernement, on crée un observatoire qui travaillera avec l'Institut de la statistique du Québec, qui travaillera avec le Conseil du Trésor, qui travaillera avec les partenaires du marché de la main-d'œuvre pour savoir c'est quoi les besoins en termes démographiques, c'est quoi les besoins en termes de main-d'œuvre, c'est quoi les besoins en termes, c'est quoi nos capacités en termes de francisation, puis le gouvernement aura des scénarios.
Mais là, on vous a répondu, au contraire, c'est politique. Est-ce qu'on peut déléguer à des technocrates une décision comme celle-là?
Attention, moi, les technocrates, c'est un peu péjoratif d'ailleurs, mais...
Oui, je ne voulais pas l'employer comme ça, mais en tout cas, des fonctionnaires, des experts.
C'est ça, les employés de la fonction publique pour qui j'ai énormément de respect, je vous ai parlé de scénarios. Ils peuvent nous donner 2-3 scénarios. Scénario A, B, C. Voici selon les ressources. Et là, le débat politique se fera sur des scénarios en fonction des possibilités réelles. Puis
alors,
des
ça pourrait vouloir dire une baisse quand même.
Ça pourrait vouloir dire une baisse. Exact.
Je serais à l'aise avec ça.
Je serais à l'aise avec ça.
Je me fonderais sur des chiffres.
Mais exact. Moi, je veux que ça soit fondé sur des chiffres. C'est trop un débat important pour dire n'importe quoi. Puis quand on dit n'importe quoi, ça ouvre la porte à toutes sortes de propos qui sont... Puis à déplacer le focus de la course au leadership vers d'autres choses que ce sur quoi on devrait travailler.
Mais vous faites de la politique. Vous savez mieux que moi ce que je vais vous dire là. Il y a des clivages là, qui s'installent là, dans un débat. Puis là, vous vous trouvez à tomber d'un côté ou de l'autre de la ligne. Vous n'avez pas peur de vous faire faire un Cloutier, Alexandre Cloutier, à la dernière course, qui s'est finalement fait définir comme le multiculturaliste de service, celui qui est du côté jovialisme sur ces questions-là.
Moi, mon but, pas me faire définir par les autres, c'est de faire ma propre campagne. Puis la vraie question que les membres du Parti québécois doivent se poser, c'est qui sera le mieux placé pour être premier ministre, pour avoir l'air d'un premier ministre. Et ça,
un
premier ministrable. Puis ça, être premier ministre, là, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le coin de la table. Ça prend quelqu'un qui va parler à l'ensemble des Québécois. Ça va être quelqu'un qui va être responsable. C'est pas une joke, c'est pas une blague d'être premier ministre. C'est un travail qui est sérieux.
Là, j'ai entendu Guy Nantel là, dans votre... dans le sous-texte.
Il n'aurait pas été là, puis j'aurais dit la même chose. Parce que
des fois, vous êtes un one-man show.
Ben lui-même, il dit qu'il fait des one-man shows. Oui. Quand il est seul sur scène, c'est pas péjoratif là, de faire un one-man show. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fera un autre travail, puis tout d'un coup, il choisirait de se présenter à la direction du Parti québécois. Puis je dirais la même chose, là, dans le sens que moi, je crois à ça, qu'il faut être sérieux puis responsable dans notre travail. Et il faut que le Parti québécois, à la prochaine élection, présente un premier ministre comme chef. Et
trouvez-vous que c'est un peu fort de café, quelqu'un qui... Alors là, je ne veux pas rentrer dans le débat sur est-ce qu'un humoriste devrait ou non faire de la politique. C'est pas ça la question.
Je m'en fous qu'il soit humoriste, ouais.
Quelqu'un, en fait, qui arrive de nulle part du point de vue de la politique, de l'exercice politique, qui ne connaît, mais sans doute, absolument pas les mécanismes, les rouages internes, les
surtout
plus élémentaires.
Surtout au Parti québécois, là, quand même.
Oui, il y a beaucoup de mécanismes et de rouages. Est-ce que c'est pas étonnant que quelqu'un qui a pas ce bagage-là puisse déjà aspirer à un poste de chefferie d'un parti, pas juste s'impliquer en politique? On a vu Pierre-Carl Péladeau commencer par être député, à tout le moins.
Exact. Bon. Ouais, puis M. Péladeau avait été président quand même du conseil d'administration de la plus grande société d'État du Québec qui s'appelle Hydro-Québec. Donc, oui, il avait une connaissance d'une société d'État importante au Québec. Effectivement, moi, je veux dire, tout le monde a le droit de se présenter. Tant mieux si on a des nouveaux candidats qui viennent au Parti québécois. Maintenant, moi, je prétends que pour devenir chef, il faut avoir une connaissance puis une expérience de l'administration publique puis être capable de démontrer qu'on est à la fois précurseur. Et moi, je pense que mon parcours démontre que j'ai toujours été un précurseur. À l'intérieur du parti, j'ai fait avancer le parti, entre autres, sur la cause de l'environnement. À la dernière élection, là, les experts au Québec disaient que le meilleur programme en environnement, c'était le Parti québécois qui l'avait. Puis ça, c'est moi qui ai travaillé là-dessus.
Il nous reste peu de temps, oui, Sylvain Gaudreau. Oui, oui. On ne peut pas ne pas parler un instant, même si ça sera beaucoup trop peu, du dossier de la langue. Oui. Parce que le dossier de la langue, au fond, c'est pas juste la langue. C'est l'identité, c'est la nation, d'une certaine façon, c'est la culture. Là, je peux parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui fait des propositions assez musclées dans ce domaine-là et qui évoque le collégial en français, par exemple, la loi 101 au cégep, si je ne me trompe pas. Où est-ce que vous vous situez?
Je ne pense pas qu'il a dit, en tout cas...
Je peux me tromper, là.
Je pense pas qu'il a dit qu'il faut que la loi 101 s'applique au cégep. Il a parlé de cours, il a parlé de...
Disons qu'ils voient un problème, là.
Oui,
là, on apprend ce matin qu'à Vaudreuil-Dorion, il y a un cégep.
Ben non, pour moi, ça, un cégep bilingue dans ce coin-là, pour moi, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne solution. Il faut évidemment...
Allez-vous faire des propositions qui, oui, vont plus loin que ce que le PQ faisait traditionnellement récemment?
Je vais faire des propositions, qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, que le Québec est français, que la langue officielle et commune du Québec est le français, et que quand on va débarquer à Montréal, en avion, mettons, à Dorval ou autrement, on va savoir que Montréal est aussi français que Toronto est anglais. Moi, quand je débarque à Toronto, je ne me pose pas de questions.
Là, il y a loin de, oui, ben, il y a loin de la coupe aux lèvres, vous diront certains.
Admettons que je me mets dans la peau d'un visiteur ou d'un touriste qui débarque à Montréal, je ne suis pas sûr que Montréal est français. Mais, OK, moi, c'est l'image.
On pourrait y passer une journée sans le savoir.
Exact. C'est ça qui n'a pas d'allure, OK? Ouais. Puis moi, je veux m'assurer qu'on va faire en sorte que Montréal soit aussi français que Toronto est anglais, ou Montréal est aussi francophone que Toronto est anglophone. C'est ça qu'il faut qu'on démontre, et présentement, ce n'est pas ça. Alors, il faut mettre toutes les mesures responsables, raisonnables, mais aussi rendre ça attirant. Comment ça se fait qu'il y a plein de jeunes francophones qui s'en vont étudier dans un collège anglophone? C'est qu'il y a un attrait, c'est comme si on voyait l'anglais comme plus ouvert. Et pourtant, le français est une langue internationale, puis il faut valoriser ça.
Alors, on va suivre vos propositions là-dessus, comme sur plein d'autres,
oui,
sujets.
Donc, c'est encore jeune, je suis allé chercher mon bulletin aujourd'hui.
Alors, il nous faudra une douzaine d'émissions pour traiter tout ça.
Oui.
Bravo pour votre bulletin.
Merci.
Et merci d'avoir été avec nous. Vous écoutiez Société. C'était Sylvain Gaudreau, candidat à la chefferie du Parti québécois, qui était notre invité. Nick Payne qui vous dit à lundi prochain, même heure, même poste.